Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Droit devant, l'émission juridique permettant de mieux comprendre le droit. Alors il y a 2 semaines, on vous parlait du droit du logement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réforme pénale avec tout d'abord une chronique présentée par Geoffrey sur les lois devant durant le mandat de Sarkozy. Donc quels sont les problèmes liés à la réinsertion suite à une peine de prison? C'est ce qu'on verra dans un cas pratique. On vous parlera ensuite de la réforme pénale, ses modalités dans une chronique et ses critiques dans une revue de presse.
Nous verrons que quand certains sont accusés de totalitarisme et les autres d'angélisme, voire de laxisme, au-delà de ces accusations et considérations partisanes, les chiffres sont toujours là pour faire état de l'efficacité ou non des réformes proposées. Nous commencerons donc cette émission par une présentation des différentes lois portant sur la récidive que l'on donne notamment à notre ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, et ce entre 2005 et 2008 plus précisément. Puis nous ferons état du bilan qui a été fait sur cette question à l'issue du mandat de Nicolas Sarkozy. Après cette première partie d'émission, nous nous intéresserons aux nouvelles propositions du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et à l'implication de notre nouvelle garde des Sceaux, Christiane Taubira, dans la construction d'un projet particulièrement ambitieux de réorganisation profonde du suivi des détenus dans notre pays. Commençons donc avec cette première partie, consacrée aux lois sur la récidive sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Première étape, la loi du 13 décembre 2005 qui crée le placement sous surveillance électronique mobile. Le placement sous surveillance électronique est une mesure d'aménagement de peine permettant d'exécuter une peine d'emprisonnement sans être incarcéré. Cette mesure repose sur le principe que la personne s'engage à rester à son domicile à certaines heures fixées par le juge. La personne porte le bracelet à la cheville, si elle sort de chez elle en dehors des heures fixées, un surveillant pénitentiaire est aussitôt averti par une alarme à distance. Deuxième étape maintenant d'évolution de la prévention de la récidive sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la loi du 10 août 2007. La loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs du 10 août 2007, appelée aussi loi sur la récidive ou loi Dati, instaure notamment le système des peines planchers. Les crimes ou délits commis en état de récidive légale ne pourront plus être punis d'une peine inférieure à certains seuils fixés par la loi et proportionnels au maximum encouru. Cette loi a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de l'opposition comme de la part des juristes. L'opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat a formé un recours devant le Conseil constitutionnel au motif de l'inconstitutionnalité de plusieurs de ces dispositions. On va donc écouter un exemple d'indignation de l'opposition avec cette intervention de Noël Mamère en 2007 à l'Assemblée nationale à propos de cette même loi Dati.
Votre candidat a défendu ici un texte sur la prévention de la délinquance auquel vous avez beaucoup travaillé, où la récidive a été mise en exergue. Aucune évaluation de ces lois n'a été faite. Elles sont à peine appliquées que vous en soumettez une nouvelle. Trop de lois tuent la loi. Votre texte est un texte de défiance à l'égard de la magistrature, une injure aux juges qui font leur travail dans des conditions précaires. Associations et syndicats de magistrats refusent en effet l'instauration de ces peines planchers. Vous estimez que les décisions des magistrats ne satisfont pas aux injonctions du président de la République. Drôle de manière de respecter la séparation des pouvoirs. Le président de la République s'est engagé dans une sorte de guérilla judiciaire, jouant l'opinion contre les juges et les médias contre le droit. Lorsqu'il prend à témoin la nation, le président de la République met ses juges en demeure de s'aligner ou il les stigmatise. Si le juge décide, en son âme et conscience, de ne pas appliquer la peine planchée, il prend un risque. Si le récidiviste commet un nouveau crime ou un nouveau délit, qui verra sa responsabilité engagée, sinon le magistrat, alors dépouillé de ses prérogatives.
Troisième étape maintenant, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. En droit pénal français, la rétention de sûreté est une procédure visant à permettre le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté de prisonniers ayant exécuté leur peine mais présentant un risque très élevé de récidive parce qu'ils souffrent d'un trouble grave de la personnalité. Cette mesure est limitée aux condamnations pour les crimes les plus graves, en particulier les crimes sexuels. Selon Rachida Dati elle-même, la rétention de sûreté, c'est la sûreté de tous au prix de la liberté de quelques-uns. Il s'agit là de la loi la plus controversée, encore aujourd'hui, du fait du caractère très polémique de la rétention de sûreté et de sa conformité à la Constitution, notamment par rapport au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Selon ce principe, la loi qui sert de titre à l'accusation doit être antérieure à l'action pour laquelle on accuse. C'est-à-dire plus exactement que les personnes écrouées avant le 25 février 2008 et qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté ne devraient pas, en vertu de ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale, être inquiétées, étant entendu qu'au moment de leur incarcération, cette loi n'existait pas. On écoute alors Robert Badinter, ancien garde des Sceaux à qui l'on doit notamment l'abolition de la peine de mort en 1981, s'exprimer à propos de cette rétention de sûreté sur le plateau de France 2 et répondant aux questions de David Pujadas.
Depuis la Révolution française, on va en prison pour des actes, des crimes qu'on a commis. Pas pour ce qu'on est. Pas au nom d'une dangerosité là indiquée par des psychiatres. Pas au nom de tests ou d'entretiens. Mais au regard de charges et de preuves. C'est là où se situe le changement radical. Il y aura eu la condamnation, et elles sont lourdes.
La peine
au terme
purgée.
De la peine, mais non, ça ne suffit pas. Vous êtes considéré comme dangereux, il n'a pas été déclaré irresponsable. Vous êtes considéré comme dangereux, vous devez rester en prison. Pour combien de temps? Ça dépend des psychiatres.
Mais...
Et tout le monde sait que ça n'est pas une science.
La garde des Sceaux, Rachida Dati, dit c'est pour protéger les victimes. Il y a eu des cas de récidive ces derniers temps.
La protection des victimes est tout à fait nécessaire. Mais je rappelle ce qu'on oublie. Ce qu'est le serment des jurés quand ils sont à la cour d'assises et qu'ils vont engager les citoyens la plus haute responsabilité qui soit. Ils jurent de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni les intérêts des victimes. C'est ça le triptyque.
Désormais, nous vous proposons d'établir un premier bilan de l'ensemble de ces lois visant à prévenir la récidive sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Concernant les chiffres, de façon très pragmatique, en 2005, le pourcentage de condamnés pour récidive était de 6,2%. En 2010, il était de 11,1%. On constate donc, malgré toutes ces lois dont nous venons de parler, une augmentation persistante de la récidive. Il apparaît cependant que certaines mesures ont été davantage efficaces que d'autres. Ainsi, concernant le bracelet électronique, selon les chiffres du ministère de la Justice, seulement 23% des détenus ont été à nouveau condamnés à une peine de prison ferme sous 5 ans à compter de leur placement sous surveillance électronique. En revanche, concernant le placement en détention, il apparaît que 63% des anciens détenus sont à nouveau condamnés à une peine de prison ferme dans les 5 ans.
Get closest, go slow.
Crystallize XX sur Radio Campus Rennes.
L'histoire qui nous intéresse ici commence en 2008. Elle concerne le jeune Matteo, un peu isolé, un peu perdu. Il a alors 18 ans. Par une belle journée d'été, Matteo et ses copains montent un drôle de projet. Celui d'aller cambrioler un de ces magnifiques pavillons du centre-ville de Rennes. Malheureusement pour eux, le pavillon en question était sous alarme.
Alors Matteo et ses complices se retrouvent devant le tribunal correctionnel de Rennes, accusés d'avoir commis le délit de vol par effraction et en réunion, ce qui est une circonstance aggravante. Matteo se voit donc condamné à 6 mois de prison avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans. Cette mise à l'épreuve consiste en une série d'interdictions et d'obligations. Ainsi, Matteo n'a par exemple plus le droit de fréquenter ses anciens complices, ni de s'approcher du lieu de délit à moins d'une distance déterminée par le juge. S'il déroge à ses obligations et à ses interdits, il risque cette fois la suppression du sursis et de faire de la prison ferme.
Et c'est ce qui finira par se produire peu de temps après. En effet, à l'approche de l'hiver 2008, Matteo et ses anciens complices recommencent à vadrouiller ensemble et conspirent sur un nouveau méfait. Ils pensent avoir repéré cette fois-ci le plan idéal. Une vieille maison de la banlieue rennaise que ses habitants semblent avoir désertée afin de partir en vacances. Malheureusement pour eux, c'était sans compter sur la prévoyance des voisins qui ne manqueront pas d'appeler la police, interpellés par cette bande de 4 jeunes faisant des allées et venues dans la maison et qui ne ressemblent pas du tout à des déménageurs. Matteo passe à nouveau devant le tribunal, il connaît alors le système des peines planchers.
Alors ce système a été instauré en France par la loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive. Donc il s'agit de restreindre la liberté des juges dans la fixation du quantum de certaines peines d'emprisonnement ou de réclusion. Les crimes ou délits commis en état de récidive légale, c'est-à-dire commis après une première condamnation dans un certain délai pour des faits similaires, ne peuvent plus être punis d'une peine inférieure à certains seuils, fixés par la loi et proportionnels au maximum encouru. Bon, alors, toutefois, la juridiction garde la possibilité de prononcer une peine inférieure à ces seuils par une motivation spéciale détaillant les garanties de réinsertion du condamné. S'agissant d'un vol par effraction en réunion, délit puni de 5 ans de prison, la peine planchée est de 2 ans. Matteo se voit donc condamné à 2 ans de prison ferme.
Après avoir purgé sa peine, Matteo décide d'en finir pour de bon avec ses bêtises. Puis il fait la rencontre de Justine, en tombe fou amoureux, et décide d'assumer sa nouvelle vie. Il parvient même à décrocher un emploi de magasinier dans une grande surface. Malheureusement, de mauvaises fréquentations vont à nouveau le ramener vers le côté obscur. Et voilà notre Matteo qui se retrouve ivre au volant d'une DeLorean en pleine nuit, fracassant la vitrine d'un illustre chocolatier du centre-ville de Rennes. Il est à nouveau arrêté. Mais cette fois, le juge est sensible au fait que Matteo ait une compagne et un métier à préserver. Et que le remettre en prison pour ce nouvel écart, qu'il regrette amèrement, reviendrait à le condamner ni plus ni moins à tout perdre à nouveau. Matteo se voit alors proposer la solution du bracelet électronique.
Alors, le placement sous surveillance électronique ou bracelet électronique est une mesure d'aménagement de peine permettant d'exécuter une peine d'emprisonnement sans être incarcéré. Donc, cette mesure repose sur le principe que la personne s'engage à rester à son domicile ou chez quelqu'un qui l'héberge, à certaines heures fixées par le juge, donc par exemple de 19h à 8h du matin, la personne porte le bracelet à la cheville. Si elle sort de chez elle en dehors des heures fixées, un surveillant pénitentiaire est aussitôt averti par une alarme à distance. Le bracelet permet d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, etc. Donc Matteo peut préserver sa vie de famille et garder son emploi.
Hélas, Matteo est angoissé par ce bracelet électronique et par le fait de ne pas être libre de ses mouvements et décide dans un moment de panique de le couper et de partir loin de chez lui, prendre la route pour embrasser un nouveau départ. Ce qui malheureusement sera compromis par son interpellation par la police quelques heures après la destruction de son bracelet, ceci ayant enclenché une alarme, ayant alerté les services pénitentiaires, qui prirent immédiatement contact avec les forces de l'ordre, qui n'eurent aucun mal à retrouver Matteo. Matteo qui retournera donc en prison, malgré cette seconde chance qui lui avait été offerte. Sa copine, excédée et découragée, décide de le quitter. Matteo perd son emploi dans la foulée. Sûr d'être sans emploi et sans logement à sa sortie de prison, coupé de tous, le bilan semble bien négatif.
Oui, mais alors c'était sans compter sur l'intervention du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la ville de Rennes. Le SPIP, comme on l'appelle, est un service à compétence départementale. Il intervient à la fois en milieu ouvert et en milieu fermé, auprès des personnes détenues, donc prévenues ou condamnées, et sur saisine des autorités judiciaires par les mesures alternatives aux poursuites, présententielles ou post-sentencielle. Donc la mission essentielle du SPIP, c'est la prévention de la récidive à travers, donc, par exemple, l'aide à la décision judiciaire et l'individualisation des peines, la lutte contre la désocialisation, la réinsertion des personnes placées sous main de justice, le suivi et le contrôle de leurs obligations. Donc en l'espèce, Mathias, un jeune conseiller d'insertion et de probation, va pouvoir encourager Matteo à renouer des liens avec sa famille. Donc le moral retrouvé et motivé par cette sorte de main tendue, si on peut dire, qui aura changé sa vie, Matteo retrouve sa liberté. Il va pouvoir être diplômé, trouver un logement, etc. et sortir de ce mauvais pas.
Est-ce que vous supprimez les peines planchers pour les récidivistes ?
C'était une mauvaise réforme.
Vous supprimez les peines planchers pour les récidivistes ?
C'est une mauvaise réforme. Pourquoi ? Parce que la justice, je lui fais confiance. Les magistrats, ce sont des personnes habilitées à rendre la justice au nom du peuple français. Et donc, il est tout à fait important d'individualiser la peine, parfois, pour la rendre même plus sévère. Mais je ne suis pas pour des mesures automatiques.
Donc vous supprimez.
J'ai confiance dans la magistrature.
Donc vous supprimez.
Oui, et ce que je ferai, c'est que je renforcerai les moyens de la justice. Parce que le problème de la récidive, ce que vous évoquez, ce sujet, qui est très important pour nous, pour nos concitoyens, qui apprennent qu'il y a une personne qui est sortie de prison et qui n'a pas été suivie et qui récidive, eh bien, je ferai en sorte que les moyens de suivi des personnes les plus dangereuses qui ont été condamnées et qui sont à la fin de leur peine, que ces mesures de suivi soient effectives. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens dans la justice pour faire en sorte que la récidive ne se reproduise pas.
Pour introduire cette deuxième partie de l'émission consacrée aux politiques de prévention de la récidive sous la présidence de François Hollande, nous venons d'entendre ce dernier qui s'exprimait sur RMC au micro de Jean-Jacques Bourdin en février 2012, et donc en pleine campagne présidentielle, à propos de son souhait de supprimer les peines planchers qu'il considérait comme une mauvaise réforme, entre autres, comme vous l'avez entendu, car elle trahissait selon lui un manque de confiance envers la clairvoyance des juges. Christiane Taubira, actuelle garde des Sceaux, déclarait quant à elle, en juin 2012, que les politiques pénales des cinq dernières années ont eu pour effet d'aggraver la récidive. On pourrait parler, concernant ses travaux sur le sujet, d'un véritable travail de déconstruction et de refonte des politiques que l'on a évoqué dans la première partie de cette émission. La première grande ligne directrice serait de n'avoir recours à la prison qu'en dernier recours, d'infliger aux délinquants une peine dans la communauté, c'est-à-dire dans la société et non pas en prison. Le condamné aurait des devoirs et des obligations, mais aussi un suivi intense pour permettre sa réinsertion et s'attaquer au problème de la récidive. La conséquence logique de cette nouvelle politique est le recours à la probation. C'est un terme que l'on entendra beaucoup au cours des prochains mois. La probation se définit comme une série d'activités et d'interventions qui implique suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l'auteur d'infractions dans la société et de contribuer à la sécurité collective. Il ne s'agit pas seulement de contrôler la dangerosité du condamné, mais aussi ses ressources propres, ses besoins et ses carences. On écoute maintenant la garde des Sceaux, Christiane Taubira, parler elle-même de ce projet de création d'une peine de probation.
Nous offrons aux magistrats un instrument supplémentaire en milieu ouvert qui permettra de prononcer dès l'audience des interdictions, des obligations, et les conseillers d'insertion de probation vont assurer le suivi, le contrôle. C'est donc une peine de grande contrainte, mais qui ne désocialise pas. Et donc qui va incontestablement, comme on a constaté dans les pays qui pratiquent déjà cette peine, va contribuer sérieusement, significativement, à réduire les risques de récidive.
Afin d'avoir un point de vue concret concernant toutes ces mesures et leur effectivité, nous pouvons maintenant écouter cette interview très intéressante par Marie-Ève Malouine de France Info, de Marie Crétenot, juriste à l'OIP, l'Observatoire international des prisons, à propos de l'application concrète de toutes ces mesures.
Est-ce que les mesures annoncées aujourd'hui par Christiane Taubira vont dans le bon sens ou est-ce que c'est un écran de fumée, un de plus ?
Du point de vue de la politique pénale, c'est-à-dire promouvoir le développement des alternatives et des aménagements de peine, c'est une bonne chose et c'est un bon axe et ça avait déjà été annoncé. Je pense on a pu voir qu'elle avait dit aussi de vouloir lutter contre l'indignité des lieux de détention. C'est un bon axe aussi. Simplement, aujourd'hui, on attend des actes. Ces annonces ont été faites il y a certains temps. On attend aujourd'hui en fait des lois pénales parce qu'il y avait eu des circulaires. Elle avait mis une circulaire en septembre pour demander au parquet de moins retenir la récidive. Aujourd'hui, ça n'a pas eu véritablement d'impact. On a encore une augmentation du nombre de détenus de 1,5% depuis cette circulaire. Donc il faut d'autres moyens, il faut une loi, il faut des axes politiques forts et des moyens.
Christiane Taubira veut développer les aménagements de peine avec les travaux d'intérêt général, le bracelet électronique aussi, la liberté conditionnelle. Selon vous, c'est efficace pour la réinsertion ?
Oui, c'est efficace et il y a pas mal d'études qui ont montré, toute la recherche en réalité montre que les taux de récidive sont beaucoup moins importants lorsque les personnes ont fait l'objet de mesures alternatives à la prison. Et qu'au contraire, lorsqu'elles passent par la case prison et qu'elles vont jusqu'au bout de leur peine sans bénéficier d'un aménagement de peine, c'est là que les taux sont les plus forts. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il manque énormément de moyens en milieu ouvert. Il n'y a pas assez de conseillers d'insertion et de probation. Les juges d'application des peines sont surchargés. Les dispositifs d'accompagnement comme par exemple ce que font des associations dans le cadre de placements à l'extérieur ou même pour développer les travaux d'intérêt généraux, tout ça est complètement insuffisant. Par ailleurs, il n'y a pas encore véritablement de réflexion sur le contenu de l'accompagnement. Enfin, quel type de suivi on assure à ces personnes? C'est-à-dire qu'on peut mettre des personnes en milieu ouvert. Si le suivi n'est pas assuré, ça va jouer sur le taux de récidive et ça peut aussi impacter en fait le regard qu'on va porter sur ces mesures.
Comme vous venez de l'entendre, si les professionnels comme Marie Cretneau se réjouissent de l'orientation actuelle de la garde des Sceaux, ils déplorent toujours le manque de moyens et notamment de conseillers d'insertion et de probation. L'avenir nous dira donc si les moyens auront été mis en œuvre par le gouvernement afin de soumettre l'efficacité de ces réformes et de ces mesures à l'épreuve de la réalité.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero.
C'était Muerte en Hawaii de Calle 13 sur Radio Campus Rennes. Alors, il y a deux semaines, on vous parlait dans notre revue de presse de la loi Duflo. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de la réforme pénale. Donc c'est une réforme dont on a beaucoup entendu parler à la rentrée. On a sélectionné pour vous quelques articles de presse permettant de mieux comprendre pourquoi cette loi soulève tant de polémiques. Donc que s'est-il passé concrètement ? Eh bien, le 9 octobre dernier, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a présenté au Conseil des ministres son projet de réforme pénale. La philosophie de la réforme constitue une inflexion par rapport à la politique pénale du précédent gouvernement, en tentant de substituer l'usage de peines alternatives, telles que le recours aux bracelets électroniques ou les travaux d'intérêt général, à l'enfermement systématique des condamnés. Donc la réforme prévoit également la suppression des peines planchers qui avaient été instaurées en 2007 par le gouvernement de François Fillon. Jean-Marc Ayrault a annoncé qu'au total 1000 postes seraient créés dans les services de probation et d'insertion, donc les SPIP, pour accompagner la réforme sur une période de 3 ans. Deux mesures majeures concernent directement les SPIP. Donc on a la création d'une peine de probation en milieu ouvert, symboliquement baptisée contrainte pénale, et le fait aussi de favoriser les sorties sous contrainte de prison pour éviter les sorties sèches, donc c'est-à-dire sans aucun accompagnement. Ce mode de sortie représente 80% des sorties actuellement. Cette contrainte pénale serait applicable pour les délits passibles de 5 ans de prison au maximum. Le gouvernement a précisé qu'elle ne remplacerait aucune autre peine. La réforme vise à lutter contre la surpopulation carcérale, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires dépassant les 115%. Elle vise aussi à réduire le taux de récidive après une condamnation, s'appuyant sur une série d'études et de comparaisons internationales qui montrent comment l'enfermement de prison augmenterait de manière significative le risque de récidive à la sortie. Ce projet avait déjà été énoncé par François Hollande pendant la campagne présidentielle. Donc l'annonce de la réforme a suscité de nombreuses réactions. Du côté des partis politiques, par exemple, la droite crie au laxisme et demande le retrait du texte. Parmi ceux qui soutiennent la réforme, l'Union syndicale de la magistrature, qui est le principal syndicat de magistrats, s'est dit plutôt satisfait, même si la mise en pratique de la loi soulève de nombreuses interrogations. Le 11 septembre dernier, le club Droit, Justice, Sécurité, qui est un groupe de réflexion composé d'avocats, d'universitaires et de magistrats, n'a pas épargné ses critiques envers la garde des Sceaux. Les juristes lui reprochent un texte mal bâti, imprécis, incomplet. Il soutenait pourtant dans un premier temps la loi, mais il lui reproche le manque de mise en œuvre. Du côté de la presse, les médias ne sont pas tous d'accord. Le Point, par exemple, parle d'une réforme controversée et critiquée même à gauche. Libération a un avis mitigé lorsqu'il présente la loi, et le journal Valeurs Actuelles va jusqu'à titrer un de ses articles par « Taubira, la femme qui vide les prisons ». Le Monde est revenu dans un article sur les grands principes que doit contenir la loi. Donc on a le principe de fermeté, d'efficacité, de clarté. Il va dans le même sens que Mediapart sur les limites de la réforme pénale Taubira. Voilà, donc c'est une loi qui ne satisfait visiblement pas, si l'on en croit la presse, mais pour des raisons qui peuvent être très différentes, voire contradictoires, selon les lignes éditoriales. Au niveau international, qu'est-ce qui se passe ? Il serait intéressant de comparer la France avec d'autres pays, et c'est ce que fait un article publié dans Jolle Presse. Donc les journalistes ont interviewé Pierre-Victor Tournier, il est directeur de recherche au CNRS et criminologue. Il vient de sortir un livre, La prison, une nécessité pour la République. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien que la situation carcérale en France est similaire aux pays comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal. Donc au niveau par exemple de la surpopulation, des détentions très longues, elle est mieux située que les pays d'Europe de l'Est. Par contre, si l'on prend le cas de la nouvelle probation, les Français devraient s'inspirer des modèles anglais ou suédois qui donnent des résultats plutôt satisfaisants. Monsieur Tournier ajoute que pour la libération conditionnelle, la France est l'un des pays qui l'utilise le moins, alors que le Conseil de l'Europe la recommande. Donc là encore, comment ne pas s'inspirer d'un certain nombre d'expériences qui se sont avérées positives ? La loi sur la réforme pénale n'a pas encore été votée. Le texte doit être examiné à l'Assemblée nationale à partir du 8 avril, soit juste après les municipales.
Voilà, donc c'est déjà la fin de cette deuxième émission de Droit Devant. Merci beaucoup à Claude encore une fois pour sa précieuse aide et pour son professionnalisme. Et rendez-vous à tous à dans 2 semaines. Merci. Salut Marion.
Merci de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines.